Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours. Elle était là hier pour lundi de Pâques jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, cette offensive sur le Donbass, la Russie annonce avoir mené une série de frappes sur l'est de l'Ukraine. Dans ce journal également, la présidentielle, dernières heures de préparation avant le débat demain soir. Et puis les prix des voitures explosent eux aussi, plus 15% en 3 ans.
À moins de 24 heures du duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, on vous emmène en coulisses dans les studios de la Plaine Saint-Denis où aura lieu le débat demain. Et à 12h50, coup de projecteur sur ces votes du premier tour invalidés par le Conseil constitutionnel. Un peu plus de 10 000 votes quand même.
La question du jour sur RTL.fr, le débat d'entre-deux-tours va-t-il avoir une influence sur votre vote? Eh bien vous dites non, massivement, hein, 91%. La météo, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Le débat n'est pas passé. Le débat n'est pas passé quand même. Donc
ils sont sur leur choix, sans doute, les auditeurs qui répondent.
Exactement.
Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Bon, retour de la pluie, vous avez de mauvaises nouvelles sur le sud-ouest.
Oui, et ces pluies vont remonter cet après-midi vers la Touraine. Elles seront plus marquées dans le sud de la Garonne, avec de la neige même à basse altitude pour la saison sur les Pyrénées. Sur le nord-ouest, un ciel variable entre nuages et éclaircies. Un léger voile dans le nord-est, mais ça reste très beau. Tout comme dans le sud-est, tout ça sous des températures. Alors forcément, en baisse sous les pluies, de 11 à 18 degrés dans le sud-ouest, de 14 à 20 degrés sur la moitié nord et jusqu'à 24 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Midi.
Le président Zelensky l'avait annoncé dès hier soir. La Russie le confirme ce matin. Une dizaine de frappes aériennes ont touché l'est de l'Ukraine. Moscou évoque aussi des missiles et appelle désormais les soldats ukrainiens à déposer les armes. Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Ça y est, l'offensive du Donbass a vraiment commencé.
Oui, la bataille du Donbass entre dans sa première phase. Le nom est un peu barbare, le shaping. C'est la préparation d'une grosse bataille qui va arriver. La Russie effectue des tirs longue distance qu'on appelle des feux dans la profondeur, frapper des objectifs loin de la ligne de contact, désorganiser le deuxième échelon, le second rideau de l'armée, par des tirs d'artillerie, par l'aviation sur 50, sur 100 km. Voire plus. Le but, c'est un, de gêner l'adversaire dans toute sa logistique, l'empêcher de se ravitailler, par exemple, détruire les nœuds routiers pour qu'ils circulent plus difficilement, et deux, d'ores et déjà, détruire leurs tanks, leur matériel. L'ennemi est affaibli. Le but du shaping est de détruire 40 à 50% des installations adverses. Et après, les unités de contact vont finir le travail. L'armée russe prépare donc, modèle le champ de bataille pour avoir un avantage avant de lancer les opérations de contact, unité mécanisée contre unité mécanisée.
Et Julien Fautra du service étranger de RTL. Vincent Serrano, vous êtes-vous sur place en Ukraine? Bonjour.
Bonjour.
Vous vous trouvez à Irpin, près de Kiev. Que dit-on de tout ça? Quel est le sentiment des habitants là-bas?
Eh bien que l'histoire se répète, là où l'horreur s'est déplacée ces dernières semaines, c'est la première chose que nous a raconté Oksana, dont le fils est engagé dans la défense territoriale ukrainienne.
Pour moi, c'est un cauchemar sur terre, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre maintenant? On a donné notre sang au début de la guerre, on a envoyé de l'argent là-bas. Aujourd'hui, je ne peux que prier, et je prie pour mes frères et mes sœurs qui sont au milieu de tout ça. Chacun fait du mieux qu'il peut.
Et puis vous avez ici, après l'inquiétude, l'esprit de résistance qui prend le dessus. Le fait qu'à Irpin, ils en sont la preuve, il ne faut pas baisser les bras. C'est le message qu'envoie Artur au Donbass.
Moi aussi je suis inquiet, mais ils avaient également dit qu'ils allaient prendre Kiev en 3 jours. Même si ça va être l'enfer là-bas, il n'y a pas d'autre issue possible que la victoire. On croit en notre armée, en la force de notre armée, on pense à nos frères là-bas, mais on va gagner.
Des Ukrainiens qui suivent comme ils le peuvent la situation, l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux.
Vincent Serrano et Jonathan Griveau, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron doit s'entretenir aujourd'hui avec plusieurs chefs d'État occidentaux. Une réunion par visioconférence avec notamment Joe Biden, le président américain, mais aussi le chancelier allemand, la présidente de la Commission européenne ou encore le secrétaire général de l'OTAN.
Emmanuel Macron qui sera demain soir face à Marine Le Pen.
Un débat d'entre-deux-tours, ce sera bien sûr à suivre sur RTL et RTL.fr. Édition spéciale dès 19h15 et jusqu'à minuit 30. Vous ne raterez rien. Les deux candidats, eux, n'ont plus que quelques heures pour se préparer. Vincent Derosier, disais, qu'est-ce qui est prévu du côté d'Emmanuel Macron?
Vous venez d'en parler, Amandine, il est rattrapé par son agenda de président de la République et conséquence de cette visioconférence, le déplacement qui était prévu aujourd'hui en Ile-de-France est reporté, on va dire, à 90%, mais avec Emmanuel Macron, prudence, dixit un proche, il peut décider sur un coup de tête dans l'après-midi de faire quand même ce saut de puce en Ile-de-France. Et deuxième temps de sa journée, la préparation du débat, ce sera à l'Élysée cet après-midi et ou ce soir avec ses proches au palais, dans un bureau, des discussions, des idées, des angles d'attaque. Ça parle stratégie politique, mais aussi attitude à adopter pendant le débat, vocabulaire. Et sachez-le, Emmanuel Macron a demandé à ses très proches de ne rien laisser filtrer sur ces réunions.
Et Marine Le Pen, Marie Mollet, qu'est-ce qu'elle a prévu aujourd'hui?
Eh bien, aujourd'hui, Marine Le Pen joue à cache-cache. Est-elle en Normandie, au Grand Air, dans la maison de campagne de l'un de ses conseillers, comme nous l'affirme son entourage depuis des semaines, ou est-elle chez elle, à la Selle Saint-Cloud, pour travailler comme à son habitude? Depuis hier, silence radio et pas de réponse claire. Le camp Le Pen fait le mort, façon de brouiller les pistes pour ne pas être pourchassé par la presse. Alors où qu'elle soit, ce que l'on sait, c'est qu'elle s'entraîne à faire de faux débats face à un faux Emmanuel Macron chargé de lui donner la réplique. Quel thème a-t-elle travaillé en priorité? Là encore, secret industriel, motus.
Et alors, avec qui travaille-t-il Emmanuel Macron, d'abord, Vincent?
Alors, il y a le cœur de la planète Macron, deux, trois personnes. Il y a le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, qui en général, pendant les réunions, fait son courrier au bout de la table, ce qui ne l'empêche pas d'écouter ou d'intervenir quand il a envie de le faire.
Il travaille à plein temps.
Voilà, c'est sa façon à lui de se concentrer. Et il y a le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, qui aurait dû
très
devenir...
Très proche, paraît-il.
Très, très proche. Il aurait dû devenir... le directeur de campagne du président candidat. Finalement, il était très apprécié des agriculteurs. Le président lui a demandé de rester dans son ministère, mais il s'occupe, il s'implique quand même beaucoup dans cette campagne. Et puis, il y a toujours autour de la table monsieur communication Clément Leonarduzzi et la plume Jonathan Guémas. Et autour de ce noyau dur, il y a, on va dire, les gros satellites influents. Les ministres Sébastien Lecornu des Outre-mer, François Bayrou et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Ces trois hommes qui sont très écoutés et qui ont un accès direct à Emmanuel Macron.
Et Brigitte Macron?
Elle est écoutée, mais elle se mêle assez peu de politique.
Et autour de Marine Le Pen, Marie, qui trouve-t-on?
Alors, ce qui est frappant, c'est que ce sont des profils très techno. C'est une vraie différence avec 2017. Assez peu de profils politiques, mis à part le beau-frère de Marine Le Pen, Philippe Olivier, qui est aussi sa plume. Mis à part ça, ce sont des profils très techniques. Renaud Labaye, son chef de cabinet. Jean-Philippe Tanguy, son directeur adjoint de campagne, qui est passé par le privé. Et puis, il y a toute cette cohorte de hauts fonctionnaires, les Horaces, hein, vous savez, ce mystérieux club de hauts fonctionnaires, de chefs d'entreprise, de têtes bien faites, qui inonderaient depuis des années la candidate de fiches techniques, qui vont passer aujourd'hui à l'endroit où Marine Le Pen est retranchée pour la faire bosser dossier par dossier.
Marie Mollet et Vincent Derosier du service politique de RTL, on vous retrouve tous les deux dans moins de 10 minutes pour évoquer ce débat. Laurent Marsic nous emmènera en coulisses.
Et parmi les thèmes qui seront abordés demain soir, la question bien sûr du pouvoir d'achat. Nouvelle illustration aujourd'hui avec la flambée des prix des voitures, plus 15% en 3 ans. Christophe Bourroux, ça vaut pour tous les constructeurs.
Ah oui, prenez par exemple la voiture la plus vendue en France, au particulier la Dacia Sandero. Depuis le début du mois, son tarif a grimpé de 350 €. Autre star, la Peugeot 208. C'est 500 € de plus et une hausse de 6 000 € pour la Tesla Model 3, modèle électrique le plus vendu en France. Bon, à cela, plusieurs explications. La guerre en Ukraine, bien sûr, qui fait bondir les prix des matières premières. Ajoutez à cela la crise des semi-conducteurs qui perdure, qui touche toutes les marques. Vous savez, les semi-conducteurs, ce sont ces petites puces électroniques de la taille d'un grain de sable qui sont indispensables pour faire fonctionner aussi bien les GPS que les tableaux de bord. Mais il n'y a pas que cela. Les voitures coûtent plus cher en raison des normes anti-pollution de plus en plus sévères et qui obligent les constructeurs à investir des millions d'euros. Enfin, les marges. L'idée est de vendre moins mais plus cher. C'est la stratégie payante de Peugeot pour sa montée en gamme. Renault veut suivre cet exemple. Résultat, aujourd'hui, le prix moyen d'une auto neuve en France dépasse les 27 000 €. C'est 7 000 € de plus en 10 ans, avec aussi une conséquence, les délais de livraison qui se rallongent jusqu'à un an pour obtenir obtenir sa voiture neuve.
27 000 euros, le prix moyen pour une voiture. Merci à vous, Christophe Bourou, spécialiste auto ici à RTL.
Eux ont été surnommés les voltigeurs de l'autoroute.
16 hommes sont jugés depuis le 31 mars devant le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé et association de malfaiteurs. Un gang au mode opératoire spectaculaire, hein, puisqu'ils dévalisaient les camions sur l'autoroute, tout ça à vive allure, au péril de leur vie. Un scénario digne d'un film, comme l'explique Maître Sorrentino, c'est l'avocat de l'un des prévenus.
C'est très très périlleux, c'est très dangereux. Évidemment, ça fait penser à des scènes de cascade absolument incroyables qu'on voit dans certains films. Et pourtant là, c'est le réel. Ce sont des personnes qui, en pleine nuit, dans le noir, sur l'autoroute à 90 km/h, sont prêts à sortir d'un camion, se mettre debout sur un capot de voiture pour aller scier à la meuleuse un camion qui est devant eux, pénétrer dans celui-ci et faire basculer des cartons d'un camion transporteur à une camionnette juste derrière. Je crois qu'on est face à des personnes d'une communauté dans une grande précarité sociale qui sont prêts à mettre leur vie en danger pour parvenir aux fins de leur vol. Ce qui compte, c'est la matérialité des faits, voilà, la soustraction d'un objet d'autrui. C'est ça qui doit être sanctionné et c'est en aucun cas la manière dont cela aurait été fait, que ce soit spectaculaire ou non, importe peu sur l'agencement de la peine.
Des propos recueillis pour RTL par Alice Moreno. L'avocat général a requis des peines allant de 3 à 8 ans de prison. Le jugement est attendu jeudi. Et puis c'est le revers de la médaille de cette météo printanière de ces dernières semaines. Une dizaine de départements sont déjà en alerte sécheresse. Parmi eux, l'Ain, où un arrêté est en vigueur depuis le 31 mars. Un vrai coup dur pour les agriculteurs et notamment les céréaliers. Vous avez rencontré l'un d'eux à Montluel, Bertrand Frachon.
Oui, Romain Georges cultive 130 hectares de maïs, mais avec la sécheresse, il n'a désormais plus le droit d'arroser la journée. Il est donc contraint de travailler la nuit.
Et après, les conditions de travail de nuit sont très compliquées, quoi, parce que temps de faire la mise en route de tous les enrouleurs à partir de 9h, moi j'ai 3 sites d'irrigation. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer avant 10-11 heures le soir. Et de nuit, voir les installations, si elles fonctionnent, si c'est bien ou pas. Si ça se trouve, le matin, on va arriver, un tuyau sera débranché et puis ça n'aura rien arrosé de la nuit, quoi.
Les arrêtés de sécheresse arrivent de plus en plus tôt et c'est bien ce qui inquiète ce jeune agriculteur.
D'habitude, on a des arrêtés au 15 août, ça fait peur pour l'avenir. Est-ce qu'au mois de juillet, on aura carrément le droit d'arroser nos maïs ? Nous, nos puits sont à peu près à 60 mètres de profond. Moi, j'ai des puits qui sont à autour de 100 mètres cubeurs. On n'épuise pas nos nappes non plus. Mais on est conscient qu'il y a une nappe qui ne se stabilise pas. Mais d'où vient le problème, ça
Seule solution à l'avenir, selon lui, faire venir l'eau du Rhône. Mais cela nécessiterait des investissements considérables.
Dans l'Ain, le reportage de Bertrand Frachon pour RTL.
Le débat, c'est dans 24 heures. On va entrer dans la coulisse avec Laurent Marsic et revenir sur ces phrases que vous entendez depuis hier, les phrases marquantes de tous ces débats. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud. Présidentielle 2022. J-5.
Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas.
Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République.
Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Moi, président de la République ?
Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif.
Calmez-vous.
Et les parents... Non,
calmez-vous,
je ne me calmerai pas.
Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement...
Moi, président de la République...
Je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non.
Moi, président de la République...
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de votre parti.
Ils sont sur les réseaux sociaux.
Je parle...
Depuis 40 ans, il rythme la campagne présidentielle. Alors il y a bien sûr ces phrases entrées dans l'histoire qu'on vient d'entendre. Le décor, les règles du débat de l'entre-deux-tours comptent aussi de la réalisation à la température du studio. Rien n'est laissé au hasard. Alors à quoi faut-il s'attendre pour demain ? Aura-t-on le droit ou non à des plans de coupe ? Qui parlera en premier ? RTL Midi vous emmène dans les coulisses de ce débat. Avec nous toujours Marie Mollet et Vincent Derosier du service politique de RTL. Et puis Laurent Marsic. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes-vous devant les studios de la Plaine-Saint-Denis, là où tout va se passer demain ? Pour l'instant, vous n'avez pas vu le plateau, mais on sait déjà à peu près à quoi il va ressembler, non ?
Oui, c'est pas, alors bon, c'est pas l'effervescence des grands jours encore. Ils sont en train d'installer tout simplement des bâches noires et puis un promontoire qui permettra aux photographes de pouvoir saisir l'instant où les candidats arriveront ici dans ce studio. C'est un plateau de 1000 m² sans public évidemment. Il y a deux bureaux, dans le jargon on dit des desks. Sur chaque desk, un chrono qui va leur donner le temps de parole restant pour chaque thématique, car l'émission sera découpée en 7-8 thématiques, soit des tranches tranche de 20 minutes pour une durée d'émission théorique de 140 minutes. Parmi les thèmes qui seront abordés, on sait qu'il y aura l'international, les retraites, la sécurité, l'Europe, l'immigration, le pouvoir d'achat ou encore l'environnement. L'environnement qui avait été un thème qui avait été trappé en 2017, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas abordé. C'est un dispositif à l'américaine pour l'émission. Si vous avez vu les débats entre Trump et Biden à la télévision américaine, vous aurez un peu une idée de ce à quoi ça va ressembler. C'est-à-dire que aux États-Unis, le présentateur était quasiment installé dans la fosse d'orchestre et les candidats face à face, debout devant des pupitres. Bah, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que les présentateurs Gilles Boulot pour TF1 et Léa Salamé pour France 2 seront à 4 mètres des candidats. Je ne sais pas si visuellement on les verra à l'image. Ils seront assis, bien sûr. Oui. Tout le monde sera assis. Mais à l'image, quand ils débattront, je ne suis pas certain qu'on les voit. On aura plus de précisions tout à l'heure, en début d'après-midi, quand on ira découvrir ce fameux plateau. C'est un parti pris de réalisation pour qu'à l'image, on ait en fait, les deux candidats face à face et pas de table centrale comme ça se faisait habituellement.
Laurent, il y a un certain nombre de points à un peu plus de 24 heures maintenant de ce débat qui font encore l'objet de négociations. Ça va de la climatisation aux lumières, la couleur des fonds.
Oui, tout le moindre détail est négocié entre les parties avec les propositions des chaînes. On en a beaucoup parlé. La température, ça peut sembler anecdotique, mais c'est important. Certaines personnes se sentent mal à l'aise sous les projecteurs, trop chaud et vous avez une goutte de transpiration. C'est le souvenir de Nixon en 1960 qui transpirait comme un bœuf et qui a donné l'impression d'être en porte-à-faux à la télévision. À la radio, les gens avaient plutôt l'impression que c'était lui qui avait gagné le débat face à Kennedy, mais à la télévision, les gens avaient plutôt l'impression que c'était Kennedy qui avait gagné parce que justement il avait ce visage cadavérique et puis avec plein de transpiration. Et puis s'il fait trop froid, certains peuvent avoir du mal à se concentrer ou encore une lumière trop forte. C'est par exemple ce que François Mitterrand avait refusé en 1981, tout simplement parce que ça le faisait cligner des yeux et il ne voulait surtout pas ressembler à ce que les humoristes comme Thierry Leluron faisaient de lui dans leurs sketchs. Si vous vous souvenez, physiquement ils imitaient Mitterrand en le clignant fortement des yeux. Et puis il y a la couleur aussi, ça a un impact sur ce que portent les candidats, la couleur des vestes, les costumes, la couleur de ce qu'il y a dans les écrans. Et puis les présentateurs eux-mêmes doivent aussi s'adapter pour ne pas porter les mêmes couleurs qu'Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.
Marie-Vincent, dans les coulisses des candidats, qu'est-ce qu'on vous dit ?
Alors, dans les exigences de Marine Le Pen, la première, c'était d'essayer de resserrer les thèmes, de ne pas avoir un nombre trop important de thèmes parce qu'elle voulait, nous dit-on, approfondir. Donc ça, c'est sur le fond. Sur la forme, il y a un sujet qui est un sujet de crispation dans les équipes Le Pen, c'est les plans de coupe, effectivement. Laurent Marcy en a parlé, parce que souvenez-vous, en 2017, il y a ces plans de coupe dévastateurs de Marine Le Pen qui est en train de farfouiller
dans ses fiches.
Et effectivement, à ce moment-là, Sébastien Chenu, qui était en régie, avait demandé à resserrer pour éviter d'avoir ces images dévastatrices. Donc on sait que c'est un point sur lequel...
Mais il y aura des plans de coupe serrés. Est-ce que la question a été tranchée ? Parce qu'il y en avait la dernière fois, pour la première fois d'ailleurs. Est-ce que cette fois-ci...
C'était encore en négociation hier soir. L'idée, c'était d'avoir des plans de coupe qui... alors, un peu particulier, c'est-à-dire que...
des plans de coupe où on ne voit pas celui qui écoute.
Candidat, alors, uniquement quand le candidat qui écoute tient le regard de celui qui parle et pas voir le candidat qui écoute en train de lire ses notes. Faut se souvenir que le plan de coupe, ça fait aussi partie de la stratégie, hein. Ségolène Royal, quand elle est face à Nicolas Sarkozy, quand Nicolas Sarkozy parle, Ségolène Royal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle regarde la caméra. Quand on a François Hollande et Nicolas Sarkozy qui débattent, François Hollande, qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde ses fiches. Sous l'air de cause toujours, tu m'intéresses. C'était un petit peu ça.
Ça avait été très déstabilisant, dit-on, pour Ségolène Royal, parce que Nicolas Sarkozy ne la regardait pas et ne regardait que ses notes pendant le débat. Mais on ne l'a jamais vu parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de plan de coupe. Mais les plans de coupe, ça me paraît quand même indispensable aujourd'hui, en 2022, imaginer une émission sans plan de coupe, ça serait quand même assez étonnant, Laurent.
Ce serait difficile de revenir en arrière. Oui. Ce que disent les réalisateurs, c'est on reviendrait au temps de l'ORTF, où là, à ce moment-là, effectivement, les plans de coupe étaient interdits.
Vincent Derosier ?
Oui, alors l'entourage d'Emmanuel Macron, deux petites choses sur les exigences. Ils n'ont pas très envie de rentrer dans les coulisses, à savoir s'ils demandent de l'eau pétillante, des cacahuètes, ou etc. On sait simplement que le président candidat a demandé le plateau le plus moderne possible, que ça fasse vraiment 2022 et qu'il y ait une réelle différence avec le plateau de 2017. Et puis, il n'ira pas voir le plateau avant le débat, nous dit son équipe ce matin. Enfin, sur le fond, on sait qu'il a préparé des punchlines, c'est-à-dire des formules qu'il enverra dans la figure de Marine Le Pen, uniquement s'il le sent et que le débat s'y prête.
Marine Le Pen, elle ira demain après-midi
mercredi après-midi pour effectivement faire du repérage. On n'a pas jugé utile d'y aller avant, mais effectivement, ouais, visite prévue demain après-midi.
Juste un tout dernier mot, Laurent. Il y a un certain nombre de points qui doivent être tirés au sort.
Oui, alors il y a des tirages au sort qui ont eu lieu ce matin. C'est fait, on aura les résultats normalement dans l'après-midi. Il y en a trois. Le premier pour savoir qui prendra la parole en premier, pour déterminer la place de l'un et l'autre sur le plateau. Souvenez-vous, en 2017, Emmanuel Macron était à droite, Marine Le Pen était à gauche. Ça impacte aussi la place des présentateurs, parce qu'ils ont dit dans des récentes interviews que leur position sur le plateau dépendrait aussi de ça, pour ne pas avoir deux hommes, deux femmes en face à face. Et puis il y a un dernier tirage au sort. Alors il est un peu anecdotique, ce sont les loges. Elles sont en fait identiques, hein, et ce studio a une particularité, c'est que les deux candidats vont pouvoir rejoindre le plateau sans passer par le même couloir, ni se croiser dans l'escalier ou l'ascenseur. Je le connais bien, ce studio, parce que c'est là où se tourne The Voice. Et pour l'anecdote, les coachs ne croisent jamais les candidats, parce que ils ont justement la possibilité de ne pas le croiser.
Et vous allez assister au tirage au sort? Vous allez le voir, ce tirage?
Non, les tirages au sort sont faits. Les tirages offerts, ouais, ils ont eu lieu. Avec les chaînes ont demandé au CSA d'être, enfin à l'ARCOM, l'ex-CSA, d'être présent, d'être le garant de tout ça, et ça a été fait ce matin.
Merci Laurent Marsic. Réflexion assez pertinente de notre ami Benjamin Sportouche, qui dirige ce service politique, qui dit que ce serait plus moderne debout, et il agite.
Debout pendant 2h30, c'est pas forcément, si je peux me permettre.
Il faut des dates contention peut-être.
La modernité au grand jury, ils sont debout.
Mais ça peut être long, 2 heures debout.
La preuve, en tout cas aux États-Unis, souvent ça se fait. Et là, ils seront assis. Bien, merci de toutes ces précisions. Et j'imagine que demain, on reparlera de ce grand débat. Dans une seconde, ces votes du premier tour invalidés par le Conseil constitutionnel. Un peu plus de 10 000 votes, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole. 50 centimes la RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
S'il vous plaît, y a-t-il des électeurs pour le bureau 1? La queue ne concerne que le bureau 2.
Je déclare le bureau de vote ouvert.
À voter.
À voter. La formule a été prononcée près de 36 millions de fois lors du premier tour de la présidentielle le 10 avril dernier. Autant de fois, bien sûr, que de votants. 10 216 de ces votes ont toutefois été invalidés par le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Quelles sont les règles? C'est notre deuxième débat. Bonjour Bastien Scordia.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Acteurs Publics. 10 216 votes invalidés sur près de 36 millions, je le disais. C'est finalement très peu. Ça veut dire que le système fonctionne bien?
Oui, qui fonctionne plutôt bien, parce que vous citez le chiffre de 10 216 irrégularités sur 36 millions de votants. Donc on est seulement à 0,02% à peu près d'irrégularités sur les suffrages exprimés. Ça montre que ça fonctionne bien, mais ça montre aussi qu'il reste quelques lacunes ou de méconnaissance des règles électorales pour le moment dans certaines communes.
Alors justement, on va passer en revue quelques exemples de raisons pour lesquelles ces votes ont été invalidés. Il y a un maire qui avait organisé carrément le scrutin chez lui.
Oui, c'est l'une des plus cocasses irrégularités. C'était dans le Pas-de-Calais, donc une petite commune, une cinquantaine d'habitants. Le maire avait organisé le bureau de vote chez lui, l'élection chez lui, sans isoloir de surcroît. Donc voilà, une trentaine de suffrages ont été annulés par le Conseil d'État, qui mettait en avant cette difficulté de ne pas avoir de bureau de vote à la mairie. Le maire a été convoqué à la préfecture du Pas-de-Calais, qui lui a rappelé les règles notamment. Et le maire a cherché la parade pour le second tour de dimanche qui arrive, en évoquant la possibilité d'avoir un bloc de chantier peut-être sur le parking de la mairie, ou alors de réorganiser plus tard l'élection chez lui, mais à condition de prévenir la préfecture, comme il faut un arrêté du préfet pour régler.
Peut-être avec un isoloir, parce que je crois qu'il n'y en avait pas, c'était à l'échelle, donc dans le Pas-de-Calais. Ça, c'est le plus cocasse, l'exemple le plus étonnant. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme raison d'invalidation?
Il y en a plusieurs. Voilà, par exemple, l'absence de membres du bureau de vote, ça a été le cas notamment à Paris, dans le 12e arrondissement, où 1250 suffrages ont été annulés, puisque quand le magistrat délégué du Conseil constitutionnel est passé pour vérifier la régularité du scrutin, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de membres du bureau de vote, donc l'élection a été annulée dans ce bureau de vote. C'était la même chose un peu également aussi à Toulouse, dans le plus gros bureau de vote, où là, on a vu une discordance entre les chiffres qui ont été transmis à la préfecture et les chiffres qui figuraient sur les feuilles de dépouillement. Voilà, c'était
1400... Mais là, c'est parce que ces bureaux de vote ont été contrôlés. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de bureaux de vote qui n'ont pas été contrôlés et qui auraient peut-être été annulés s'ils l'avaient été.
Oui, parce qu'il y a à peu près, donc, sur l'ensemble du territoire, 2000 membres ou magistrats délégués du Conseil constitutionnel qui, voilà, font des contrôles inopinés, si on peut le dire, dans certains bureaux de vote et se rendent compte, voilà, de ces irrégularités, mais il pourrait en avoir beaucoup plus, voilà. Et par exemple, là, je l'évoquais, l'absence de membres de bureaux de vote. Il y a aussi des problèmes de signature des listes d'émargement.
Des urnes qui sont pas verrouillées. Oui. D'après vous, c'est quoi, une méconnaissance des règles ou une volonté de tronquer le scrutin?
Bah, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de tronquer le scrutin, parce qu'on voit après le nombre de suffrages qui est annulé, mais plutôt des lacunes ou méconnaissances du code électoral. Et à certains moments, ça peut être aussi une volonté de tronquer l'élection. J'étais en train de fouiller les archives un petit peu du Conseil constitutionnel avec les suffrages qui avaient été annulés, notamment lors de l'élection de 2002 au second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et c'était un maire de l'Aude qui avait installé à la sortie du bureau de vote un dispositif de décontamination. En fait, il avait installé un portique et un pédiluve comme à la piscine pour les électeurs qui avaient soit voté pour Jacques Chirac, soit voté pour Jean-Marie Le Pen. Et pour le maire, c'était une manière de désinfecter les électeurs, et c'est ces termes, des électeurs qui avaient été salis. Donc là, le Conseil constitutionnel avait invalidé ces suffrages, et le maire avait même été suspendu par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, en 2002. Mais là, on voyait bien que c'était un agissement qui était contre l'élection ou par opposition et en méconnaissance réelle des règles du scrutin.
Merci Monsieur Scordia, je rappelle que vous êtes journaliste et acteur public. J'ai lu également qu'à Cargès, des électeurs signaient avant de voter. Donc oui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait sourire.
Oui, c'était bien ça, oui. C'était 570 scrutins annulés.
C'est, effectivement, c'est étrange. Il est 12h58, nous sommes avec les auditeurs dans une seconde.
RTL.